Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 21 novembre, encore un professeur agressé à Créteil dans le lycée où un élève avait menacé une enseignante avec une arme factice. C'est une information RTL. Cette fois, un prof a été violemment bousculé et insulté. De moins en moins de gilets jaunes mobilisés, mais de plus en plus de casseurs infiltrés. Au cinquième jour du mouvement, nous irons au péage de Virsac, près de Bordeaux, totalement vandalisé. L'exécutif doit-il faire un nouveau geste avant la grande manifestation de samedi ? Une députée de la majorité souhaite que les banques créent un microcrédit quasiment à taux zéro pour aider ceux qui sont prêts à se débarrasser de leur vieille voiture. Du riz blanc, de l'eau et un futon par terre, ce sont les conditions de détention de Carlos Ghosn pour 10 jours encore à Tokyo. A-t-il été victime d'un coup monté ? On évoque un projet de fusion entre Renault et Nissan. Les soldes, en bon français, ça se dit aussi Black Friday et ça marche tellement bien qu'il dure toute la semaine cette année. Un pic incontournable de consommation. Analyse du phénomène à la fin de ce journal. Le temps, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Ne nous bradez pas la météo.
Non, alors je ne la brade pas du tout dans l'ouest. On va retrouver de belles éclaircies, c'est déjà le cas d'ailleurs. Tout au long de l'après-midi, le soleil dominera largement. Quelques rares averses sur le littoral breton. Et puis dans la moitié est, bon là, ce sera un petit peu moins bien. Avec un ciel qui va rester beaucoup plus nuageux et menaçant même. Avec encore des averses sous forme de pluie ou de neige, notamment du côté des Alpes. Mais également entre la Côte d'Azur et la Corse. Alors côté température, là ça reste froid. On sera entre 4 et 8 degrés à peu près dans la plupart des régions. Il y a que dans l'extrême sud où on dépassera les 10 degrés, on ira même jusqu'à 15 voire 19 degrés en Corse.
La question du jour sur RTL.fr, le gouvernement doit-il céder face aux gilets jaunes ? Vous dites oui à 65%, 29% de non. Bonjour Pascal Praud, vous allez revenir au 32-10 ?
Bien évidemment, mais j'ai envie de vous parler des professeurs qui vous ont marqué, puisque les collaborateurs du projet Voltaire, qui est un outil en ligne d'apprentissage de l'orthographe, qui fait progresser écoliers, collégiens et lycéens et étudiants aussi, lancent officiellement le hashtag Merci prof, hashtag merci prof. Eh bien, venez nous parler des profs qui vous ont marqué entre 13 et 14 heures, du secondaire ou du primaire.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Un élève qui menace sa prof avec une arme factice pointée sur la tête, c'était au lycée Branly de Créteil. Personne n'a oublié cette image. Eh bien, RTL vous le révélait ce matin. Un mois après, un prof de technologie a été agressé lundi en plein cours dans ce même établissement. L'adolescent a été placé en garde à vue. Que s'est-il passé exactement, Olivier Bois ?
Eh bien, l'agression a eu lieu lundi après-midi en pleine salle de classe. Vous l'avez dit, ce professeur d'électrotechnique est alors avec ses élèves de première et il ordonne à l'un d'entre eux, qui est particulièrement agité, de sortir quelques minutes pour se calmer. L'élève de 18 ans ne le supporte pas, il se lève, s'approche du professeur et le pousse violemment à deux reprises, avant de sortir de classe en insultant en plus copieusement son enseignant. Le professeur n'a pas été blessé, mais il a décidé de ne pas laisser passer et hier, il est allé porter plainte au commissariat de Créteil. L'affaire est prise au sérieux. Deux heures plus tard, hier soir, les policiers de la BAC sont allés interpeller le jeune de 18 ans qui est toujours ce midi en garde à vue. Cette agression intervient, vous l'avez dit, un peu plus d'un mois après l'affaire de cette professeure braqué par un élève avec une arme factice dans ce même établissement. Il y a eu depuis un gros travail de dialogue avec les élèves. La rentrée après la Toussaint avait été un peu tendue à cause de toute cette histoire. Cette nouvelle agression choque donc à nouveau les enseignants de ce lycée Édouard Branly à Créteil, qui est pourtant décrit comme habituellement très calme.
Merci Olivier Bois. Les gilets jaunes à la croisée des chemins, le mouvement s'essouffle, les dérapages se multiplient, mais les routiers de force ouvrière pourraient venir en renfort. On va faire le point dans un instant, mais d'abord ce chiffre qui permet de mettre en perspective ce nouveau ras-le-bol fiscal. Entre 2008 et 2016, le revenu disponible des Français, c'est-à-dire ce qu'il leur reste après impôts et taxes, a baissé de 440 euros en moyenne. C'est le résultat d'une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Mais les disparités sont énormes, Martial.
Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que la situation financière, elle s'est dégradée fortement pour deux populations en France. Les riches, les 5% les plus aisés, qui ont perdu 5640 euros par an à cause de la politique essentiellement de François Hollande. C'était la hausse de la fiscalité sur le capital, la tranche supérieure d'impôt à 45%, l'augmentation des cotisations sociales. Ça représente quand même une perte de 5% de pouvoir d'achat sur 10 ans pour ces foyers-là. Mais bien entendu, c'est plus facile à absorber que pour l'autre catégorie des perdants, à savoir les ménages modestes qui gagnent juste un peu trop pour toucher les minima sociaux et les aides d'État. Ceux-là ont été fortement touchés par la hausse massive du chômage après 2009. Ils sont aussi plus souvent à temps partiel que les autres et ont perdu l'exonération des heures supplémentaires. Ces ménages-là ont perdu jusqu'à jusqu'à 600 euros par an. Les plus pauvres, en revanche, qui bénéficient d'aide et ne paient pas d'impôts, ont vu leur situation s'améliorer un peu au cours des dernières années. Et c'est intéressant parce que ça permet effectivement de comprendre pourquoi la colère éclate maintenant. Elle n'est pas uniquement liée à la présidence Macron, puisqu'on parle là des années Sarkozy et Hollande. Et on voit bien que ceux qui ont perdu sont les classes moyennes qui travaillent, autrement dit les gilets jaunes d'aujourd'hui.
C'est donc un éclairage extrêmement intéressant. Merci Martial. Le mouvement des Gilets jaunes, venons-y. Donc, il s'étiole. 7000 manifestants ce matin sur 96 points de blocage. Ils étaient plus de 10 000 hier encore. Mais les casseurs se sont déchaînés, par exemple, sur l'île de La Réunion. 16 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Un policier a même eu une main arrachée. 38 personnes sont en garde à vue. Et puis en métropole, la barrière de péage de Virsac, près de Bordeaux, a purement et simplement été saccagée. Jean-Marc Terrier.
Oui, c'est un péage totalement dévasté. Cabine incendiée, local technique saccagé sur la chaussée ce matin. Des troncs d'arbres brûlaient encore. Les pompiers se sont activés pour éteindre ces feux. L'objectif est de sécuriser le site pour permettre sa remise en état. Stéphane Martin est directeur d'exploitation chez Vinci Autoroute.
C'est le site qui a subi le plus de dégradation et le plus de dégâts. C'est plus d'une centaine de salariés de Vinci, voire plusieurs entreprises aussi de prestataires qui sont mobilisés. Nous mettrons beaucoup, beaucoup de temps à retrouver en tout cas une situation normale en termes de trafic sur la section.
Depuis très tôt ce matin, la totalité du site est sous contrôle des forces de l'ordre. 500 hommes mobilisés, gendarmes, policiers et CRS, Didier Lallemand est le préfet de région.
Je suis persuadé de la bonne foi de la presque totalité des manifestants. Mais au milieu des manifestants se sont glissés des délinquants. Ce qui s'est passé ici est grave et va engager la responsabilité de ceux qui ont organisé le blocage. Et je trouve ça consternant car je sais qu'ils sont de bonne foi.
Vinci, qui gère cette portion d'autoroute, a porté plainte. Les dégâts sont estimés à plusieurs millions d'euros.
Jean-Marc Terrier. Alors, y aura-t-il convergence des luttes? Les gilets jaunes qui comptent monter sur Paris samedi trouveront-ils des renforts? Jusqu'à présent, les routiers étaient restés en retrait, mais Force Ouvrière Transport appelle ses adhérents à la mobilisation. Et le principal syndicat du secteur, la CFDT, s'interroge, Éric Vanier.
Alors la réunion ici à la Fédération Générale des Transports et de l'Équipement CFDT vient de se terminer à l'instant. La décision, je la prends. La CFDT Transport ne ralliera pas les gilets jaunes sur les barrages. En revanche, donc, vous l'avez dit, Force Ouvrière Transport a annoncé dès hier son ralliement, mais sur la pointe des pieds, c'est-à-dire sans afficher de bannières sur les barrages ou de slogans syndicaux et sans appeler à la grève. Côté CGT, la consigne pour l'instant, c'est de rester à l'écart et de relayer l'appel de Philippe Martinez et de la Confédération à rejoindre la manifestation nationale des chômeurs et précaires de samedi 1er décembre à Paris pour réclamer un SMIC à 1 800 euros et une TVA à 5% sur tous les produits du quotidien. Quant à la CFTC Transport, eh bien, elle prendra une décision d'ici à la fin de la semaine.
Voilà, mais vous venez de nous le dire, donc Éric Vanier, c'est une information importante. La CFDT ne ralliera pas le mouvement.
Non,
voilà.
Elle se désolidarise du mouvement des Gilets jaunes.
Merci Éric Vanier. Comment sortir de cette crise? Emmanuel Macron en appelait au dialogue hier. Gérard Larcher, le président du Sénat, a demandé ce matin sur RTL d'annuler la hausse des taxes sur le carburant.
Aujourd'hui débute l'examen du projet de loi de finances. On va tout simplement rappeler ce qui a été dit le 24 novembre 2017, il y a un an, quand on a parlé de fiscalité écologique sur les carburants. On a dit la nécessité, face à la volatilité des cours, de revenir au principe de l'annualité de la taxe. On va proposer, et ça fera 2,9 milliards de moins pour les caisses de l'État cette année, d'annuler l'augmentation de la taxe. D'ailleurs, je rappelle qu'aucun euro n'allait à la transition énergétique.
Gérard Larcher avec Elisabeth.
Vous faut des prix bas.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Carlos Ghosn en cellule pour au moins 10 jours encore à Tokyo. La garde à vue du patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a été prolongée ce matin. Le temps de poursuivre les investigations sur des soupçons de malversation financière. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a insisté ce matin à Bercy sur la présomption d'innocence.
Et je veux dire 47 000 salariés français de Renault, 186 000 salariés de Renault à travers le monde, que Renault est dirigé et bien dirigé. Cette gouvernance, elle est provisoire. Je tiens à rappeler que nous sommes dans un état de droit et que nous sommes attachés à la présomption d'innocence. Nous ne disposons, à l'heure où je vous parle, d'aucune preuve justifiant les charges qui pèsent actuellement contre M. Carlos Ghosn. La gouvernance de Renault est donc solide, mais elle est provisoire.
Et chez Renault, c'est donc Thierry Bolloré, le bras droit de Carlos Ghosn, qui assure l'intérim en tant que directeur général délégué. Et l'on s'interroge toujours sur l'éventualité d'un coup monté. Selon le très sérieux Financial Times, un projet de fusion entre Nissan et Renault aurait tout déclenché. C'est une piste intéressante, Christophe Bourreau.
Oui, comme quoi Carlos Ghosn souhaiterait que le concubinage se transforme en mariage. Une seule et même entité qu'il pourrait diriger. L'enjeu est bien de conserver l'ascendant tricolore sur le groupe. En effet, Renault domine avec 43% de Nissan, alors que le japonais ne détient que 15% du français. Or, pour les japonais, il y a un déséquilibre, car Nissan pèse presque deux fois plus pour les ventes de voitures, avec des résultats financiers supérieurs. Nissan, c'est aussi un constructeur puissant installé sur les deux plus gros marchés au monde, la Chine, où Renault vient à peine de débarquer, et aux États-Unis, où la marque aux losanges est absente. En position de force, Nissan se verrait donc bien pilote du tandem, un tandem qui pour le moment continue à rouler, si l'on en croit Thierry Bolloré qui était ce matin reçu à Bercy.
En ce qui concerne nos intérêts au sein de l'Alliance, qui a une importance vitale pour le groupe Renault, dont nous assurons évidemment la totale continuité avec nos partenaires. Pas plus tard que la semaine prochaine, nous avons d'ailleurs nos réunions mensuelles qui sont prévues pour prendre, comme régulièrement, les décisions qui sied au bon fonctionnement de l'Alliance et des différentes entreprises qui la constituent.
Tout roule donc pour les affaires courantes, mais en coulisses, c'est beaucoup plus tendu. D'autant que demain, Carlos Ghosn sera débarqué de Nissan.
Christophe Bourreau, évoquons maintenant une double peine qui ne cesse de s'accroître dans notre pays. Les personnes en situation de handicap sont de plus en plus nombreuses à être au chômage et c'est tout simplement le double des valides, 19% de chômeurs. RTL y consacre sa journée de l'emploi et met en avant des contre-exemples comme ce restaurant qui s'appelle Les Petits Plats de Maurice dans le 11e arrondissement de Paris. Reportage Jacques Seret.
C'est un restaurant niché dans une impasse.
Entrée plat dessert.
Il y a une formule entrée plat dessert, oui.
Au menu aujourd'hui.
Alors, le plat du jour, du poisson, du lieu, avec du blé.
Des produits bio et de saison comme on pourrait en trouver ailleurs, sauf qu'ici.
C'est les personnes handicapées qui cuisinent et qui servent.
Déficience intellectuelle, handicap psychique ou physique, 12 salariés sont mis à contribution.
Fanny, on est prête, l'assiette.
Ok, merci.
Isabelle Pollet-Rouillère est la directrice de cet établissement d'aide par le travail.
L'objectif, c'est vraiment de s'ouvrir sur l'extérieur et ça crée un échange très naturel. L'activité commerciale permet un peu de gommer les barrières que le handicap peut créer.
Un restaurant qui fait figure de bulle où les différences n'existent plus. En cuisine, Aymen, 19 ans, savoure.
Les clients sont sympas. Il y en a certains qui ont dit que j'étais très professionnel et ça m'a fait plaisir. Ça me redonne confiance en moi, ça m'aide à vaincre mon handicap justement.
Et Arnaud, le chef cuisinier qui encadre cette petite brigade, note lui aussi les progressions.
Ils sont capables de faire autant que nous en fait. À force de les connaître, nous-mêmes on s'enrichit. Moi je ils ont tous la capacité en fait.
Car tous ont passé un cap aux yeux de ce responsable. Certains aspirent déjà à s'insérer dans le milieu professionnel classique.
Reportage Jacques Seret à l'étranger, on vient de l'apprendre. La Commission européenne a de nouveau rejeté ce matin le projet de budget 2019 de la coalition populiste au pouvoir en Italie. Un projet de budget qui est largement en dehors des clous européens. Et donc la Commission ouvre la voie à de possibles sanctions financières. Le bras de fer n'est pas terminé. 81 morts, c'est le bilan de l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie. Deux nouveaux corps ont été découverts. Mais le nombre de personnes portées disparues grimpe à 870. La pluie devrait tomber en abondance dans les prochaines heures et aider à éteindre l'incendie. Mais les autorités redoutent maintenant une inondation. Dans un instant, après les pubs pour le Black Friday, on va parler justement de ces soldes géantes du Black Friday.